Sur ça, je vous invite à tourner avec moi dans Daniel. Nous allons continuer notre étude de Daniel. C'est le tout chapitre 3. C'est un chapitre où on peut faire beaucoup, beaucoup d'applications concernant les différents passages. J'ai choisi une application qui m'a fortement encouragé. J'espère que ça va vous encourager aussi. Je vais essayer de parler lentement ce matin. Voilà, chapitre 3. Alors, le titre du message ce matin, c'est « S'arrêter, se jeter au sol et se rouler vers une sortie ». S'arrêter, se jeter au sol et rouler constitue une technique toute simple de sécurité qu'on enseigne aux enfants, au personnel des services d'urgence et aux travailleurs de l'industrie dans le cadre de la formation en matière de santé et de sécurité lors d'un incendie. Il s'agit principalement d'une méthode pour éteindre un feu sur les vêtements ou les cheveux d'une personne, sans nécessairement utiliser un équipement pour lutter contre un feu classique. Cette méthode se compose de trois éléments. Premièrement, s'arrêter. La personne victime d'un incendie doit s'arrêter ou faire face à un incendie dans une maison doit s'arrêter. C'est tout mouvement qui pourrait attiser les flammes ou gêner ceux qui tentent d'éteindre le feu. Deuxièmement, se jeter au sol. La personne doit se jeter au sol, si possible, demeurer dans la position couchée, en se couvrant le visage avec les mains afin d'éviter les blessures au visage. Et troisièmement, se rouler vers une sortie. Alors, la personne victime d'un incendie doit se rouler sur le sol dans le but de priver le feu d'oxygène. Et si la victime se trouve couchée sur un tapis, eh bien, dans cette technique qu'on enseigne, on demande à ce qu'elle puisse se rouler, si elle est capable de s'enrouler dans le tapis, et essayer elle-même d'éteindre davantage le feu avec le tapis, tout en roulant, en essayant de rouler vers la sortie. De plus, cette méthode est non seulement un moyen pour éteindre le feu, mais il est également un outil psychologique efficace pour quelqu'un qui se retrouve face à un incendie, et particulièrement les enfants qui éprouvent de la difficulté à se concentrer dans ce genre de situation et à leur éviter ainsi de paniquer facilement. Et la plupart des gens seraient d'accord pour dire que c'est une technique que nous devrions tous connaître si jamais nous devions vivre ce genre de situation. La bonne nouvelle, c'est que cette technique fonctionnera également dans le domaine spirituel, lorsque nous aurons à faire face au feu de la vie. Et ici, aujourd'hui, bien, rappelez-vous que quand je vais parler des feux de la vie ou quand je vais parler du feu ou d'un incendie, je vais parler des différentes épreuves, des différentes difficultés que nous sommes appelés à vivre tout au long de notre vie. J'aimerais prendre quelques instants ce matin pour vous montrer le moyen que Shadrach, Meshach et Abednego ont pris pour vaincre leur propre feu de la vie, parce que le moyen qu'ils ont pris va aussi fonctionner pour nous. Alors, je vous invite à regarder, on va lire ensemble les 12 premiers versets. Le roi Nabucodonosor commanda une statue d'or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large, et il la fit dresser dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. Ensuite, il envoya des messagers convoquer les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juges, les magistrats, en un mot, tous les hauts fonctionnaires de la province. Ces personnalités devaient venir pour l'inauguration de la statue que le roi avait fait dresser. Tous ces hauts fonctionnaires se rassemblèrent donc et prirent place devant la statue pour la cérémonie d'inauguration. Le maître de cérémonie cria d'une voix puissante, « Gens de tout peuple, de toute nation et de toute langue, écoutez l'ordre que voici. Dès que vous entendrez jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous inclinerez jusqu'à terre pour adorer la statue d'or que le roi Nabucodonosor a fait dresser. Si quelqu'un refuse de s'incliner et de l'adorer, on le jettera immédiatement dans la fournaise où brûle un feu intense. Ainsi donc, dès que les gens de tout peuple, nation et langue entendirent jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psaltérion et de toutes sortes d'instruments de musique, ils s'inclinèrent jusqu'à terre et adorèrent la statue d'or que le roi Nabucodonosor avait fait dresser. Aussitôt après, quelques Babyloniens vinrent dénoncer les Juifs. Ils s'adressèrent au roi Nabucodonosor et lui dirent, « Longue vie à toi, Majesté! Toi-même, Majesté, tu as donné l'ordre suivant. Tout homme devra s'incliner jusqu'à terre pour adorer la statue d'or dès qu'il entendra jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique. Si quelqu'un refuse de s'incliner et d'adorer la statue, on le jettera immédiatement dans la fournaise où brûle un feu intense. Or, Majesté, les Juifs, Shadrach, Meshach et Abednego, à qui tu as confié des postes dans l'administration de la province de Babylone, n'ont pas respecté ton ordre. Ils refusent de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. » Jusqu'ici, la lecture de la parole. Je vous invite à prier. Père Céleste, nous voulons te rendre grâce ce matin pour ce privilège que nous avons de plonger nos regards dans ta parole. Seigneur, cette parole qui est esprit et vérité, cette parole qui convainc de péché, de justice et de jugement, cette parole, Seigneur, qui nous montre que tu es un Dieu qui est saint, mais un Dieu aussi qui est amour, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui déteste le péché, mais qui aime le pécheur. Seigneur, merci d'avoir porté ton regard sur moi. Merci d'avoir porté ton regard sur mes frères et sœurs en Christ. Et merci aussi de porter ton regard sur ceux qui ne t'appartiennent pas encore pour les attirer à travers nous à toi, afin qu'ils puissent se faire partie de ta famille, la famille de Dieu. Seigneur, bénis cette parole ce matin, que l'homme puisse s'effacer et que tu y prennes toute la place et que l'Esprit, que nous puissions entendre ce que l'Esprit a à dire à son Église. Et tout ça, c'est dans le bon nom de Jésus que je te le demande. Et le peuple de Dieu dit... Nous ne trouvons aucun verset dans la Bible garantissant à ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus qu'ils n'auront pas à affronter les incendies et les tempêtes de la vie. La Bible affirme plutôt le contraire. Nous trouvons un grand nombre de versets confirmant non seulement que des tempêtes s'abattront dans nos vies, mais qu'elles feront partie intégrante de sa vie, de notre vie, pardon. Jésus a dit, « Je vous ai dit toutes ces choses pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. » Car j'ai vaincu le monde. C'est une promesse que le Seigneur nous fait. Il nous dit, parce que vous m'appartenez, parce que vous faites le bien, parce que vous rendez témoignage aux gens de ce que Dieu accomplit dans vos vies, de ce que Dieu veut accomplir dans la vie de ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et on sait que le Seigneur a vaincu le monde. Il a vaincu la puissance que le monde exerçait dans nos vies. Il a vaincu la puissance que le diable exerçait dans nos vies et il a vaincu la puissance que le péché exerçait dans nos vies. Il y a un verbe, en tout cas, qui ressort dans toutes les épîtres de Paul et c'est le verbe qui ressort le plus souvent possible, c'est « délivrer ». Nous avons été délivrés de la puissance que le monde, le péché et le diable exerçaient dans nos vies. Le seul pouvoir que le diable a sur les enfants de Dieu, c'est le pouvoir que nous voulons lui donner. Sinon, le diable n'a plus aucun pouvoir sur nous. Je t'amène à ça. Ça, c'est important. Pas grâce à ce que nous avons fait, pas grâce à ce que nous sommes capables de faire, mais grâce à ce que Christ a accompli sur la croix pour chacun de nous. Et un autre verset, c'est celui de Job. Il dit, « Celui qui a vu le jour dans ce monde constatera combien sa vie est courte et pleine d'agitation. » L'Ecclésiaste lui dit, lui, « Tous les jours de l'homme ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne se repose pas. C'est encore là une vanité. » Certaines personnes estiment qu'être un serviteur de Dieu devrait leur garantir de ne jamais connaître d'ennui. J'ai entendu un homme prononcer les mots suivants alors qu'il traversait une période de stress et qu'il vivait toutes sortes de difficultés. « Pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi? » Ça vous est déjà arrivé, ça, cette question. Vous avez déjà posé cette question-là. « Pourquoi cela arrive à vous? » Si vous voulez commencer à avoir des tribulations dans votre vie chrétienne, ne vous contentez pas seulement que Dieu vous ait sauvé. Levez-vous et commencez à servir le Seigneur et vous allez voir qu'il y a un combat intense qui va commencer. La promesse de Jésus que vous aurez à souffrir dans ce monde, eh bien, va se manifester dans vos vies, va se réaliser dans vos vies. Le diable déteste qu'on puisse répandre la lumière parmi les ténèbres. J'ai pourtant essayé, je continue, pourquoi est-ce que moi, ça m'arrive à moi, il dit, j'ai pourtant essayé de faire tout ce que le Seigneur voulait que je fasse. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que le Seigneur n'a jamais promis à ses serviteurs qu'ils ne connaîtront jamais d'ennui. Nous pouvons être certains que non seulement nous vivrons des périodes difficiles, mais nous en aurons tous, sans exception. Il suffit de se rappeler les paroles de Jacob, dans Genèse 47, verset 9, qui dit ceci au Pharaon, « Ma vie a passé vite et j'ai connu des années difficiles. » Et je pense qu'à la fin de notre vie, eh bien, on pourrait dire aussi la même chose. La vie a passé tellement vite, et j'ai connu aussi des bonnes années, mais j'ai aussi connu des années difficiles. Lorsqu'un de nos enfants meurt, ça devient non seulement une année difficile, mais pour certains, ça devient des années difficiles. Quand on vit un divorce, quand on vit une séparation, c'est une année extrêmement difficile qui peut se prolonger dans le temps. Quand on vit des drames, peu importe le drame, eh bien, ça peut être une année difficile qui va se perpétuer, qui va continuer dans le temps. Il n'y a pas juste des bonnes journées dans ce monde, il y a aussi de très mauvaises journées, je dirais même de très mauvaises années. Servir Dieu n'élimine pas la possibilité de souffrir. En fait, ça garantit pratiquement le contraire. On n'a qu'à penser aux souffrances que l'apôtre Paul a subies pour avoir servi le Seigneur. Je n'ai pas fait la liste parce qu'elle est tellement longue, mais l'apôtre Paul, il avait besoin de monter au ciel dans une vision pour être capable d'assumer finalement l'appel qu'il avait eu, qu'il avait reçu dans sa vie. Certains pensent que vivre une vie qui est conforme à ce que Dieu dit est une garantie qu'il ne leur arrivera jamais d'ennui. Ils se disent, si je peux faire du bien à mon prochain, alors rien de grave ne m'arrivera. D'autres disent, si je passe par un moment difficile, c'est sûrement parce que j'ai commis un péché, mais ce n'est pas toujours vrai. Et ce n'est pas nécessairement vrai. Prenez le cas de Job. Il a souffert comme peu d'hommes ont pu souffrir. Pourtant, le témoignage de Dieu à propos de sa vie était qu'il était un homme irréprochable, droit, fidèle à Dieu, qui se tenait à l'écart du mal. Le fait de vivre comme Dieu le demande ne signifie pas que nous serons épargnés d'un malheur quelconque. Il peut parfois arriver que Dieu prenne les plus fidèles, les plus irréprochables, les plus droits de ses enfants pour les faire passer par le feu. Non pas pour les regarder se tortiller, souffrir et brûler, mais pour qu'il puisse les utiliser pour sa gloire et prouver qu'il est toujours Dieu. Et ça, c'est important si on est en règle avec Dieu. Si on vit comme Dieu nous le demande, si on passe par des tribulations, si on passe par des tribulations, par des persécutions, rappelons-nous que le but de Dieu dans tout ça, c'est pas de nous abaisser, c'est pas de nous écraser, c'est pas de nous détruire, mais c'est de se glorifier à travers cela. Et se glorifier, ça veut dire quoi? C'est qu'il veut manifester sa présence, il veut manifester sa puissance à travers son enfant. Pour montrer qu'il est en nous, pour montrer qu'il habite en nous et que nous sommes un outil agréable entre ses mains. Et on peut glorifier. Et voilà pourquoi Paul disait, en toute chose, eh bien, rendez grâce à Dieu en toute chose. Ne pensez pas à ce qui vous arrive. Pensez partout à ce que Dieu va faire à travers vous. Dieu veut se glorifier à travers vous. Voilà pourquoi même dans les épreuves les plus difficiles, on peut rendre grâce à Dieu. Facile à dire, pas facile à faire, mais quand on a compris que le but de Dieu, c'est de se glorifier à travers nous, c'est-à-dire manifester sa puissance, sa présence à travers nous. Manifester combien il veut attirer à travers même nos épreuves, à travers nos réactions, combien il veut attirer ceux qui ne le connaissent pas encore, on ne peut que rendre grâce à Dieu. Vous dites amen à ça?
Amen.
Amen, ouais. Plus nous en savons sur le feu, mieux nous portons. Lorsque nous réalisons que Dieu ne nous envoie pas dans le feu pour nous détruire, mais pour nous faire progresser, dans cela peut changer totalement la vision que nous avons du feu, entre guillemets, des épreuves. Lorsque vous prenez également le temps de considérer le fait que Dieu prend parfois le top de la crème, les meilleurs des meilleurs, pour les envoyer dans le feu, cela peut changer totalement votre perspective du feu. On va lire les versets 13 à 18, on continue. Nabucodonosor fut rempli d'une violente colère, et il ordonna qu'on lui amène Shadrach, Meshach et Abednego lorsqu'ils furent présents. Le roi leur demanda, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait dresser? Vous allez entendre de nouveau jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique. Êtes-vous prêt maintenant à vous incliner jusqu'à terre pour adorer la statue que j'ai faite? Si vous refusez, vous serez immédiatement jeté dans la fournaise où brûle un feu intense. Quel dieu pourrait alors vous arracher en mon pouvoir? » Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi, « Majesté, on ne veut pas essayer de se justifier. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Oui, Majesté, il nous arrachera à la fournaise et à ton pouvoir. Et même s'il ne le voulait pas, sache bien, Majesté, que nous refuserons de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. » Lorsque ces hommes ont été confrontés au feu, ils ont remis leur sort entre les mains du Seigneur parce qu'ils ont compris d'abord une chose, qu'il était impossible pour eux qu'ils s'en sortent par leurs propres moyens. Qu'ont-ils fait? Ils ont fait confiance à Dieu et ils ont remis le feu qu'ils allaient devoir affronter dans les mains du Seigneur. Chers amis, lorsque nous faisons face à nos propres feux dans la vie, nous devons aussi nous en remettre, comme Shadrach, Meshach et Abednego, nous devons aussi nous en remettre entre les mains du Seigneur et lui faire confiance. Nous pouvons même trouver une grande aide dans la manière dont ces hommes ont affronté le feu en s'en remettant entre les mains du Seigneur. Et nous avons beaucoup à apprendre à travers cet exemple. C'est facile à lire, hein? On n'est pas devant la fournaise ardente. C'est facile à lire parce que les sentiments sont évacués par rapport au texte. On n'est pas là, c'est une époque qui est déjà très loin de nous. Mais il fallait avoir une foi dans Dieu, il fallait avoir une foi en Dieu, et aussi une foi dans la résurrection des morts. Ces gens-là, ils avaient, comme Job, ils savaient que leur Rédempteur était vivant. Écoute, on ne veut pas justifier, moi, le roi, mais écoute bien, que tu meurs, qu'on meure ou qu'on vive, on est gagnant sur toute la ligne, parce que Dieu est capable. Dieu est capable d'accomplir sa volonté, sa pleine volonté dans nos vies. Et si j'ai un verbe que j'aimerais bien qu'on vous rappeler ce matin, c'est que Dieu est capable. C'est ce que le chapitre 3 nous apprend. Dieu est capable et Dieu est encore capable de vous délivrer dans le feu dans lequel vous vous trouvez, si c'est le cas ce matin. Dieu veut nous apprendre à travers ces trois jeunes hommes à lui faire confiance, à compter sur lui et à nous en remettre entre ses mains quand nous, on ne voit pas de porte de sortie. Moi, en tout cas, dans ma vie, même en tant que chrétien, quand j'essayais de régler mes problèmes par mes propres forces, j'ai réalisé une chose, c'est que je m'embourbais davantage plutôt que de m'en sortir. Le Seigneur veut nous apprendre que quand on vit des problèmes, parce qu'il est vivant, parce qu'il habite en nous, il est là pour nous accompagner, et il est là pour nous aider, à travers sa parole, dans la lecture de sa parole, pour nous montrer à lui faire confiance, parce qu'il est encore capable, aujourd'hui, de nous aider, parce qu'il n'est qu'encore capable de nous accompagner, c'est des promesses qu'il a faites dans sa parole. Verset 17, regardez le verset 17, verset 15 d'abord. En remarquez de quelle façon Nabuchodonosor va leur parler au verset 15. Quel Dieu pourrait vous arracher en mon pouvoir? D'abord, il se prenait lui-même pour un Dieu. Alors, en voulant dire, écoute, qui est capable de vous arracher à mon propre pouvoir et à tous ces dieux que moi j'adore? Shadrach, Meshach et Abednego savaient qu'ils entretenaient une relation privilégiée avec le Dieu souverain de l'univers. Regardez ce qu'ils vont lui dire, versets 15 et 16. « Majesté, nous ne voulons pas nous justifier. » En d'autres mots, écoute bien, on n'a pas besoin de te répondre là-dessus. Et la même chose est vraie pour nous, frères et sœurs. Si nous vivons une relation privilégiée avec le Dieu Tout-Puissant, nous n'avons rien à craindre. Le problème, c'est que si on vit dans le péché, là, on risque de pouvoir avoir peur et penser que Dieu ne nous accompagnera pas, que Dieu n'accomplira pas ses promesses dans notre vie. Voilà pourquoi, chaque jour, quand on se lève, eh bien, c'est vrai qu'il est bon de louer le Seigneur, mais il est bon aussi de faire un examen de conscience et de, quand on vient devant lui, si on a des choses à confesser, de pouvoir le confesser pour avoir cette assurance, cette certitude que Dieu nous accompagne partout où nous allons durant la journée et qu'il va être un témoignage, qu'il va nous utiliser pour être un témoignage de la puissance que nous avons reçue en Jésus-Christ. Pardon. Nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas des imbéciles spirituels errants à travers ce monde. Nous savons jusqu'à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu et c'est ce que nous sommes réellement. Et nous savons ceci, on l'a dit lors de la Sainte-Cène ce matin, quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui. Le but de Dieu, c'est de nous amener, Romains chapitre 8, versets 9, 29, 28 et 29, c'est de nous amener à devenir semblables à Jésus-Christ, à ressembler à Jésus-Christ, c'est-à-dire au niveau de son caractère. Et nous deviendrons parfaits, parfaitement semblables à lui, quand il va revenir, puisque ce corps mortel, eh bien, nous en serons débarrassés, nous revêtirons le même corps que Jésus avait au moment de sa résurrection, un corps qui est incorruptible, un corps qui est éternel. Nous lui ressemblerons parfaitement dans tous les domaines. Et frères et sœurs, ça, c'est une belle promesse. Pour ceux qui vieillissent, qui font de l'arthrite, des rhumatismes, eh bien, vous en aurez plus dans le royaume de Dieu. Dans votre nouveau corps, vous en aurez plus. Je pense et je suis convaincu qu'il n'y aura pas d'hôpital non plus dans le royaume de Dieu. La mort sera disparue. Frères et sœurs, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Ça, c'est une miette de nouvelles à côté de tout ce qui nous attend. Parce que non seulement nous allons être avec le Seigneur pour toujours, mais nous allons régner avec lui. Et je vais vous lire un passage tantôt. Le Seigneur, il nous a donné le royaume. C'est ce que Jésus nous dit. Dieu, c'est un Dieu qui donne. Il nous a pas vendu une pointe de terre, grosse comme une pointe de tarte, dans le royaume de Dieu. Dieu nous a donné le royaume. C'est ce que Jésus dit. C'est extraordinaire quand on pense à ça. Il ne nous doit rien. Il a choisi que nous passions l'éternité avec lui. N'est-ce pas merveilleux? Et j'espère que vous avez cette espérance, non seulement qui est vivante dans votre cœur, mais qui est active dans votre cœur ce matin, que vous avez les yeux rivés vers le ciel avec la situation qu'on vit dans le monde et que vous dites, Seigneur, reviens chercher ton Église. Seigneur, reviens bientôt, Seigneur, pour mettre fin à toute cette misère, ces abus que nous vivons dans le monde aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de fous qui nous dirigent aujourd'hui dans ce monde et on ne sait pas trop ce qui peut nous arriver demain matin. Nous n'avons pas à avoir peur, notre Dieu est non seulement le Créateur de tout l'univers, mais il est aussi notre Père. Et Luc chapitre 12, verset 32, il lui a plu de nous donner le royaume. Ça lui a fait plaisir. Il a trouvé son plaisir en son fils, ça lui a fait plaisir de donner son royaume à ses enfants. Notre Père est tout puissant, tout lui appartient et il est parfaitement capable de nous aider lorsque nous traversons une période difficile. Le problème, c'est pas qu'il n'est pas capable de nous aider, c'est que souvent, nous, on n'est pas capable de lui faire confiance. C'est là qu'est le problème. Le problème, il n'est jamais du côté de Dieu. Le problème, il est toujours de notre côté. Et on doit le confesser humblement, c'est un manque de foi. On vient au monde et on nous apprend à ne pas faire confiance à personne. À compter que sur nous-mêmes. Et là, on vient au Seigneur et le Seigneur, il nous donne un enseignement complètement différent. Là, tu vas arrêter de faire confiance uniquement à toi, maintenant tu vas me faire confiance. Et c'est pas facile, ça, de briser ça. Dépendant à quel âge vous venez au Seigneur, si vous venez au Seigneur à 50 ans, 60 ans, 70 ans, il est beaucoup plus difficile de briser ces habitudes qu'on a reçues de nos parents, finalement, qui étaient honnêtes dans la façon de nous enseigner, ou même à l'école, mais de briser ces habitudes, de dire, écoute, fais pas confiance à personne, fais uniquement confiance à toi, sinon tu vas te faire avoir un jour. Eh bien, Dieu, quand il nous demande de lui faire confiance, c'est pas dans le but de nous avoir un jour. C'est dans le but de nous aider, c'est dans le but de nous soutenir, c'est dans le but de nous porter. Parce que le Seigneur, il est fidèle. Le Seigneur, il est fidèle à ses promesses. Jamais il renie une promesse. Et voilà pourquoi on peut compter sur le Seigneur. Et c'est vraiment important, c'est vraiment le miracle de la nouvelle naissance qui va nous amener à briser cette mentalité de ne pas vouloir faire confiance aux autres, mais de faire confiance à Dieu. D'abord, ça commence à la croix. Il faut d'abord lui faire confiance que son sacrifice, il est parfait. Tellement parfait qu'il efface tous nos péchés. Et on a besoin de reconnaître, finalement, qu'on est pécheur pour voir nos péchés être effacés. Si on ne reconnaît pas qu'on est pécheur, ça veut dire qu'on est sans péché. Mais Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus à travers la personne de Jésus-Christ. Et ce miracle du pardon, il se passe d'abord, dans un premier temps, à la croix. Si vous êtes son enfant, vous n'avez pas à avoir peur qu'il vous abandonne, car il a promis de ne jamais vous délaisser, de ne jamais vous abandonner à chaque étape de votre vie. C'est pourquoi nous pouvons faire avec confiance, le Seigneur est celui qui vient à mon aide, je n'aurai peur de rien, que peut me faire un homme? Verset 17, Shadrach, Meshach et Abednego vont utiliser deux mots qui font toute la différence. Je l'ai dit il y a quelques minutes. Ils vont dire au roi, sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable. Dans une autre version, c'est peu. Le mot hébraïque, c'est « est capable », c'est-à-dire « est toujours capable », continuellement capable de nous délivrer. Et ces deux mots, « est capable », résument la foi de chacune de ces trois jeunes hommes. Ils savaient non seulement que Dieu était en contrôle de cette situation, mais qu'il gérait cette situation. Et ce matin, eh bien, si vous pouvez retenir ceci avant de quitter cette salle, si vous vivez une épreuve difficile, que vous n'y voyez pas d'issue, Dieu est capable. Dieu a déjà la solution. Et Dieu ne vous fait pas vivre cette épreuve-là pour rien, c'est pour vous faire progresser dans votre foi, pour vous amener à développer ce réflexe de lui faire confiance en toute chose. Mais comment on peut apprendre à faire confiance à Dieu en toute chose? C'est en méditant les Écritures. En méditant les Écritures, on connaît la personne de Dieu. On connaît la nature de Dieu. On connaît les attributs de Dieu. Et ça, c'est important pour nous. Quand on dit que Dieu est fidèle, eh bien, Dieu, il est fidèle. Il est éternellement fidèle. Quand on dit que Dieu est bon, il est éternellement bon. Quand on dit que Dieu vous aime, on en a parlé justement mercredi, c'est que Dieu n'a pas commencé un jour à vous aimer avant même que vous veniez au monde. Dieu vous aimait. Dieu vous aime d'un amour éternel. Alors, réfléchissez à ça, dans ce sens-là ou dans ce sens-là, mais c'est difficile à comprendre. Parce que nous, peu importe ce qu'on a vécu dans notre vie, il a fallu qu'on commence à aimer quelqu'un. Mais Dieu vous aime d'un amour éternel. Ça veut dire que dans l'éternité, le temps ne compte pas. Alors, Dieu n'a jamais commencé à vous aimer et son amour ne se terminera jamais pour vous. Essayez de saisir ça. Il y a combien de gens, d'hommes et de femmes, parce qu'il n'y a pas juste les hommes qui sont tout croches, il y a des femmes aussi, combien d'hommes et de femmes qui vous ont dit qu'ils vous aimaient et que c'était pour la vie? Ils sont où aujourd'hui? Il y en a combien qui vous ont laissé tomber? Dieu fidèle ne vous laissera jamais tomber. Jamais. On peut compter sur sa fidélité. S'il dit que le sacrifice de Christ est suffisant pour effacer tous nos péchés, si la résurrection est suffisante pour confirmer que nous avons la vie éternelle, Dieu est tellement fidèle dans ses promesses qu'il ne changera jamais d'idée. Vous imaginez si on arrivait au ciel et Dieu dit, Seigneur, je trouve que ça n'a pas vraiment marché, la croix. Oui, mais le Seigneur a dit, tout est accompli. Oui, mais c'est lui qui l'a dit, moi je ne l'ai pas dit. Vous imaginez comment on serait insécure dans notre vie chrétienne? Ce qui est écrit là, c'est marqué, c'est pour l'éternité. Ce qui est écrit là, entre Genèse, la première page, et la dernière page d'Apocalypse, ça comprend la parole de Dieu. Et il n'y a rien qui change là-dedans. Dieu ne change pas. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frères et sœurs, ces hommes n'étaient pas stupides. Alors qu'ils se trouvaient devant la fournaise et qu'ils voyaient le feu qui se dégageait, ils savaient ce qui les attendait. Ils savaient que le feu était capable de les tuer. Ils savaient qu'il n'y avait pas moyen d'y échapper, du moins d'un point de vue purement humain. Pourtant, confrontés à ce feu, ils ont également pu croire à celui qui est au-dessus du feu, qui est au-dessus de toute chose. Ils savaient que même s'ils étaient déjà jetés dans le feu, leur Père céleste avait la puissance nécessaire pour les faire passer à travers le feu, c'est-à-dire de les arracher à la fournaise ardente et au pouvoir du roi. Frères et sœurs, Dieu n'a pas changé, je le répète, il est toujours capable de faire tout ce qui doit être fait dans votre vie ou dans la mienne pour nous faire progresser dans notre foi, pour nous amener à lui faire confiance. Non seulement il est toujours Dieu, il est toujours capable, mais il a le pouvoir de faire par la puissance qui agit en nous, dit l'apôtre Paul, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Avez-vous réfléchi à ce verset? Dieu a le pouvoir de faire par la puissance qui agit, pas en haut, en nous. Si on est né de nouveau, on a une puissance en nous. C'est l'Esprit de Christ qui habite en nous, pas l'Esprit de sainteté, oui. Par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Seigneur, on pourrait dire une belle petite prière très courte tout de suite. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Seigneur, tu es encore capable, et à cause de notre manque de foi, nous freinons ta puissance dans nos vies. Nous t'empêchons d'agir avec puissance à travers nous pour convaincre les autres de péché, de justice et de jugement. Pour convaincre les autres jusqu'à quel point tu nous aimes. Pour convaincre les autres combien tu aimes les perdus. Combien tu veux les intégrer dans ton royaume. Combien tu veux qu'ils participent finalement au caractère de Christ. Même lorsque vous vous retrouvez dans le feu, Dieu est toujours en contrôle. Il a la main sur le thermostat, l'œil sur le thermomètre et il contrôle la situation. En fait, lorsque le feu vient dans votre vie, il doit passer à travers le filtre du plan parfait que Dieu a pour vous avant même qu'il vous tombe dessus. Rappelez-vous que lorsque le feu fait rage, si vous vivez comme Dieu le demande, ce qui vous arrive, va concourir à votre bien. Verset 18. Il y a quelques semaines, nous avons vu dans le chapitre 1 de Daniel que lorsque ces hommes étaient jeunes et qu'ils venaient d'arriver à Babylone, ils avaient pris position pour Dieu, qu'ils avaient pris en s'engageant finalement à vivre pour lui seul. Et nous pouvons voir qu'ils ont pris cet engagement au sérieux. Même s'ils sont confrontés ici à leur propre mort, ils sont toujours déterminés à servir le Seigneur. Ils n'ont pas renié le Seigneur et ils vont tenir leur engagement dans le pire moment de leur vie. S'il vous arrive d'être tenté de tout abandonner parce que vous vivez des moments difficiles, rappelez-vous ces trois vérités importantes. Premièrement, Dieu ne vous abandonnera jamais au moment de l'épreuve. Il a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et il a promis qu'il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Deuxièmement, rappelez-vous que Jésus-Christ a marché sur un chemin beaucoup plus difficile que celui auquel vous êtes confronté. Il n'a pas abandonné et il peut vous aider à passer à travers toutes les difficultés que vous rencontrez. Rappelons-nous que nous sommes entourés de cette grande foule de témoins qui nous a précédés, qui ont vécu les mêmes épreuves, qui ont vécu les mêmes tentations auxquelles nous sommes confrontés. Alors l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous invite à ceci, « Débarrassons-nous donc de tout ce qui gêne notre marche et du péché qui s'accroche si facilement à nous et courons résolument la course qui nous est proposée. » Vous savez, frères et sœurs, on est appelés à courir une course que Dieu nous a préparée. Et moi, j'aime bien en français courant parce qu'on nous dit le péché qui s'accroche si facilement à nous, qui nous empêche, qui veut nous empêcher de courir cette course, qui veut essayer de nous freiner. Et non seulement nous freiner, mais revenir en arrière et commencer même à regretter, oser regretter notre ancienne vie. Il dit, débarrassons-nous donc de tout ce qui gêne notre marche et du péché qui s'accroche si facilement à nous et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus dont notre foi dépend du commencement à la foi, à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Frères et sœurs, avez-vous en vue la joie qui vous est réservée dans le ciel? Vous savez à quel moment on perd ça de vue, la joie qui nous est réservée au ciel, quand on détache nos yeux de Jésus-Christ. Parce que ce qu'il a accompli à la croix, ça diminue aussi. L'importance de ce qu'il a accompli à la croix, ça diminue aussi dans nos yeux. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, gardez pas vos yeux sur les hommes, gardez pas vos yeux sur les politiciens, gardez pas vos yeux sur ce qui se passe dans le monde, gardez vos yeux sur la personne de Jésus-Christ, afin de vous rappeler continuellement, l'œuvre parfaitement gratuite qu'il a accomplie pour vous sur la croix. Sans lui, vous êtes perdus. Sans lui, vous seriez sans espérance. Gardez vos yeux fixés sur Jésus. Gardez vos yeux fixés sur Jésus. Non seulement il est mort, mais il est vivant. Non seulement il est vivant, il est au ciel. Non seulement il est au ciel, mais il va revenir un jour nous chercher. Gardez vos yeux fixés sur Jésus. C'est le premier-né d'entre les morts. C'est le premier qui a vaincu la mort. Et gardez vos yeux fixés sur Jésus. Amen. Amen. Pensez à lui et à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, et ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous découragerez pas. Troisièmement, rappelez-vous que nous n'avons pas en Jésus un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, il a lui-même été tenté en toutes choses comme nous le sommes, et pourtant, il n'a jamais commis aucun péché. Frères et sœurs, si nous devons garder nos yeux fixés sur Jésus pour remporter les victoires dans nos vies, le Seigneur Jésus a gardé avec les yeux toujours fixés sur le Père. Il était en communion parfaite avec le Père. Et on a besoin d'être en communion parfaite avec Jésus-Christ. Ce n'est pas facile, mais c'est ce que la parole nous invite, nous encourage à faire. Il peut donc maintenant venir en aide à ceux qui sont tentés parce qu'il a été lui-même tenté et qu'il a souffert. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a appris l'obéissance à travers la souffrance. Et souvent, nous devons apprendre l'obéissance, nous aussi, à travers la souffrance, frères et sœurs. Pourquoi il y a de la souffrance dans le monde? Pourquoi il y a de la maladie dans le monde? Pourquoi Dieu le permet? Bien, s'il n'y en avait pas, honnêtement, s'il n'y en avait pas, il n'y a personne qui se tournerait vers le Seigneur. Hein? Personne. Hein? Personne ne se tournerait vers le Seigneur. C'est souvent dans ces moments-là qu'on commence à se poser des questions sur ce qui se passe après la mort. Et que là, si on a un chrétien évangélique qui passe, qui nous explique finalement qu'il y a une vie après la mort et en quoi consiste cette vie, à ce moment-là, on est secoué et à ce moment-là, le Seigneur vient faire son travail et son travail de salut dans nos vies. Frères et sœurs, on est des privilégiés que longtemps d'avance, avant qu'on meure, on ait pu entendre l'Évangile et qu'on ait pu prendre une décision pour le Seigneur. Les feux de la vie prouvent la réalité de notre témoignage. Il est facile de faire des promesses à Dieu lorsque nous sommes sauvés et que tout roule comme sur des roulettes. Quand les temps difficiles arriveront, et nous pouvons être certains qu'ils arriveront un jour ou l'autre, nous serons amenés à honorer les engagements que nous avons pris envers le Seigneur. Lorsque nous voyons que les choses commencent à chauffer, nous devons nous rappeler que nous sommes ses enfants et qu'il s'est engagé à prendre soin de nous. Ainsi donc, lorsque le feu apparaîtra, il finira par apparaître. Prenez le temps de vous arrêter et considérez le feu que vous vous apprêtez à affronter en vous rappelant qui est Dieu. Présentez-vous devant le Seigneur et remettez-lui le feu que vous traversez. Faites-lui confiance et il vous donnera ce dont vous avez besoin au moment même où vous en aurez besoin. La grâce que Dieu vous réserve pour aujourd'hui, si vous ne la saisissez pas, demain elle est perdue, cette grâce. La grâce que Dieu vous réservait hier, c'est terminé. Dieu vous accorde une grâce, vous donne la grâce jour après jour. Demain, c'est une autre grâce qui s'en vient et vous devez la saisir. Et cette grâce, elle est dans la parole. C'est important de lire les Écritures. On a un Dieu qui est gracieux. Un Dieu qui est gracieux. Dieu vous faisait une grâce hier de vous pardonner vos péchés si vous aviez péché. Si vous vous êtes couché en les confesser, vous avez perdu l'occasion de pouvoir vous rétablir votre relation avec Dieu. Aujourd'hui, si c'est le cas, vous ne l'avez pas fait hier, vous le faites aujourd'hui. Pour saisir cette grâce, cette opportunité que Dieu vous accorde en Jésus-Christ, de pouvoir repartir sur des bases nouvelles. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. On a un Dieu, nous servons un Dieu, le Dieu de la deuxième chance. Dieu, c'est toujours un Dieu qui accorde une deuxième chance. Oui, mais moi, ça fait 100 fois que je confesse le même péché. Bien, c'est encore le Dieu de la deuxième chance. Amen. Heureusement qu'il ne nous refuse pas qu'on puisse prendre audience auprès de son trône de grâce. Heureusement. Verset 19 à 30, rapidement. Ces hommes se sont arrêtés, ils ont examiné l'ampleur du feu. Ils ont remis le feu entre les mains de Dieu, ils s'en sont remis à lui. Ensuite, ils ont été littéralement jetés dans le feu. Et à ce moment-là, ils ont rencontré exactement ce dont ils avaient besoin. Non pas pour éteindre les flammes, mais pour leur faire traverser le feu. Verset 24-25. Rappelez-vous que lorsque vous affrontez les feux de la vie, vous ne les affrontez jamais seuls. C'est extraordinaire ce que le roi dit ici. Regardez. Verset 24. Soudain, le roi Nabuchodonosor se leva stupéfait et demanda à ses ministres. N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés dans le feu? C'est exact, majesté, répondirent les ministres. Et pourtant, reprit le roi, je vois 4 hommes non ligotés qui se déplacent en plein milieu du feu. Aucun d'eux ne porte des traces de blessures, et le quatrième ressemble tout à fait à un être divin. Je tiens à vous rappeler simplement que le feu était tellement intense que quand les soldats ont ouvert les portes pour jeter les 3 dans le feu, les soldats sont morts, ils étaient à l'extérieur, ils sont morts brûlés par la chaleur du feu. Et là, on a 3 personnes qu'on lance dans le feu. Le roi, il est assis, lui, il veut regarder ça brûler. C'est un beau spectacle pour un roi à l'époque. Et mais là, il s'aperçoit qu'on en a lancé 3, puis il y en a 4. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Nabuchodonosor s'approcha de la porte de la fournaise et cria, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteur du Dieu Très-Haut. » Il vient de reconnaître que ce sont des serviteurs du Dieu Très-Haut. Pas de ses dieux, pas de sa statue d'or. « Serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez de là et venez. » Aussitôt, ils sortirent tous 3 du milieu du feu. Frères et sœurs, le quatrième homme qui était dans le feu, c'était la personne de Jésus-Christ. Frères et sœurs, quand vous vivez des épreuves, il a promis qu'il serait avec nous, qu'il nous accompagnerait à chaque jour de notre vie jusqu'à la fin du monde. Quand vous vivez des épreuves, Jésus est à côté de vous. Il est là pour vous protéger. Dieu était capable de les empêcher de brûler. Dieu était capable de les laisser brûler. Mais il s'est glorifié en faisant en sorte de les faire sortir. Et qu'est-ce que le texte dit aussi? La suite du verset 26, un peu plus loin. 27, pardon. Leur corps n'avait pas subi l'atteinte du feu. Leurs cheveux n'étaient pas roussis. Leurs vêtements n'étaient pas endommagés. Ils ne portaient même aucune odeur de brûlé. Frères et sœurs, quand on dit que Dieu veut se glorifier, ici, ce que Dieu a voulu faire, il a fait un miracle, il a manifesté sa puissance. Dieu n'est pas esclave des éléments dans lesquels nous baignons. Dieu est au-dessus de tout cela, frères et sœurs. Quand vous pensez qu'il ne sentait même pas le roussi, m'arrive de faire brûler quelque chose dans mon jardin, des fois, et j'essaie de me tenir très loin, et quand je rentre à la maison, ben, ça sent un petit peu la fumée. Là, on est dans une fournaise ardente, chauffée 7 fois plus qu'elle devait être chauffée. Et frères et sœurs, il n'y a aucun cheveu qui a été brûlé, absolument rien. Et regardez le roi. Voilà pourquoi le Dieu a voulu se glorifier aussi. Pardon. On ne dira pas tout de suite. Bon, rapidement. Frères et sœurs, j'estime que nos souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir que Dieu nous révélera, ce que dit Paul dans Romains chapitre 8, verset 18. Il nous est rappelé au verset 27 que je viens de lire que le Dieu que nous servons est tout-puissant et qu'il est capable de prendre soin de ses enfants. Peu importe ce que vous pouvez affronter aujourd'hui, Dieu est plus grand que ce que vous devez affronter. Est-ce que vous êtes amène à ça? Est-ce que vous en êtes convaincu? Est-ce que vous en êtes convaincu? Amen. Amen, voilà. Interrogez David concernant Goliath. Interrogez Noé concernant l'arche et le déluge. Interrogez Samson à propos de ce qui est arrivé dans ce temple rempli de Philistins. Interrogez Moïse concernant ses 40 années dans le désert. Interrogez Josué concernant la conquête du pays de Canaan. Interrogez Abraham à propos de ce qui est arrivé à son fils sur le mont de Moridja. Interrogez Joseph concernant ce qu'il a vécu dans la citerne, dans la prison et dans le palais. Interrogez Élie sur ce qui est arrivé au fils de la veuve de la veuve qui était mort. Interrogez Marie si une vierge peut avoir un enfant. Interrogez l'apôtre Paul s'il est possible qu'un pharisien fanatique puisse prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Interrogez le malfaiteur en train de mourir sur la croix de ce qu'il pense d'un Seigneur qui le sauve malgré tout ce qu'il avait fait. Chers amis, il est bon d'imprimer dans notre cœur ces trois mots « Dieu est capable ». Dieu est capable car rien n'est impossible à Dieu et tout est possible pour celui qui croit. Ces gens-là, ils n'avaient pas encore reçu ce verset-là, mais ils le mettaient en pratique. Tout est possible à celui qui croit, car rien n'est impossible à Dieu. Remarquez la protection complète qu'ils ont reçue de Dieu. Ils ont échappé au feu sans aucun dommage physique apparent. Chers amis, il est possible que vous ne sortiez pas nécessairement de votre feu sans quelques cicatrices, mais ces cicatrices vous rappelleront jour après jour la fidélité que Dieu a manifestée dans votre vie. Frères et sœurs, vous savez comment Dieu a manifesté sa fidélité envers moi quand j'ai eu un cancer? Il m'a guéri. Vous savez comment je retiens cette leçon? J'ai toujours mon porte-à-carte après 11 ans. Ouais. Et quand je mets ma main dessus, quand je me regarde dans le miroir et que je vois la petite bosse qui dépasse, je dis, « Mais Seigneur, merci pour ta fidélité, parce que tu ne me devais absolument rien. Merci pour la grâce que tu m'as accordée de me guérir. » Ouais. On a un Dieu extraordinaire. Et ça, c'est une cicatrice qui me rappelle la fidélité de Dieu. Verset 28-29, remarquez que Dieu avait un objectif plus ambitieux pour permettre à ses hommes de traverser le feu. Il l'a fait pour se glorifier, pour parler au cœur d'un roi païen. Frères et sœurs, il faut le faire. Le verset 28, louange au Dieu, louange! Un roi païen qui rend grâce à Dieu, qui loue le Seigneur. Louange au Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Ses dieux à lui n'existent plus. Il a envoyé son ange délivrer ses serviteurs qui, pleins de confiance en lui, ont désobéi à mon ordre royal. Ils ont préféré s'exposer aux tortures plutôt que de servir et d'adorer d'autres dieux que le leur. C'est pourquoi je décrète ce qui suit. Si une personne, quel que soit son peuple, sa nation ou sa langue d'origine, parle avec légèreté du Dieu de Shadrach, on est avec un Dieu païen, là, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, cette personne sera coupée en morceaux et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, aucun autre Dieu n'est capable d'accomplir une telle délivrance. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes convaincus que la délivrance que Dieu peut vous apporter, il n'y a aucun homme sur cette terre qui peut vous l'apporter? Est-ce que vous êtes amen à ça? Il n'y a personne qui peut, il n'y a même pas un pasteur qui peut vous délivrer de quoi que ce soit. C'est en Jésus-Christ que vous êtes délivré. En terminant, petite illustration. Thomas Edison a inventé le microphone, l'ampoule électrique, le réseau de distribution électrique, les films parlants et plus de 1000 autres choses. Un soir de décembre 1914, il est né en 1847, alors qu'il travaillait depuis 10 ans, 1914, on est en 2019, il travaillait déjà sur une batterie rechargeable. Et que ce travail avait grandement mis ses finances à rude épreuve, un incendie se déclara dans son usine. En quelques minutes, tous les composants d'emballage, le cellulose, pour disques et pour films, ainsi que d'autres produits inflammables brûlaient. Les services d'incendie de 8 villes environnantes arrivèrent sur les lieux, mais la chaleur était si intense et la pression d'eau de l'eau si basse que la tentative d'éteindre les flammes s'avéra vaine. Edison avait 67 ans et il venait de tout perdre. Tout ce qu'il possédait était parti en fumée. Les dégâts matériels s'élevaient à plus de 2 millions de dollars en 1914, alors que les bâtiments n'étaient assurés que pour 238 000 dollars. Il avait cru que parce que les bâtiments étaient en béton, qu'ils seraient à l'épreuve du feu. Arrivé sur les lieux de l'incendie, Charles, le fils de l'inventeur, âgé de 24 ans, chercha désespérément son père. Il finit par le trouver observant calmement le feu. Charles dit, j'avais très mal au cœur, je savais que mon père avait 67 ans, que c'était plus quelqu'un de tout jeune, et tout ce qu'il avait venait de disparaître dans les flammes. Le lendemain matin, Edison examina les ruines et déclara, « Cette catastrophe représente quelque chose d'important pour moi. Toutes nos erreurs du passé ont été brûlées. » Moi, je trouve ça magnifique. Hein? Toutes mes erreurs du passé ont été brûlées. Hey, comment nous, on aurait réagi, honnêtement? Comment on aurait réagi? Voilà ce qu'il dit. Rendons grâce à Dieu, car il nous a donné l'opportunité de pouvoir recommencer à zéro. 67 ans. Rendons grâce à Dieu, parce qu'il nous a donné le pouvoir de recommencer à zéro. Le Dieu de la seconde chance. 3 semaines après l'incendie, Edison réussissait à livrer le premier phonographe. Qui sait ce que le Seigneur peut essayer de brûler de votre vie ce matin? Abandonnez-vous à lui, et en son temps, il permettra que sa gloire se manifeste dans la situation que vous vivez, car il est encore capable. L'une des principales raisons pour lesquelles Dieu nous envoie à travers le feu, c'est dans le but de nous purifier, nous faire progresser dans notre foi et nous confier de grandes choses. Pourtant, Dieu ne vous utilisera probablement pas beaucoup sans que vous ayez d'abord traversé des incendies dans votre vie. Le feu a la remarquable capacité de brûler les impuretés et de nettoyer l'objet qui est à la merci de sa puissance. Lorsque Dieu, comme un fondeur, fait fondre toutes les impuretés de nos vies, il est tout simplement en train de nous façonner pour faire de vous, de moi, un vase qu'il pourra utiliser pour sa gloire. Souvenez-vous de Pierre, le Seigneur ne l'a pas utilisé tant ou si longtemps qu'il ne le fit pas fondre et brûler une grande partie de son orgueil et de son caractère borné. Dieu l'a fait fondre, l'a façonné, l'a transformé en un vase d'honneur en manifestant sa puissance à travers lui. Et Pierre fut le premier à prêcher. Pierre est celui que Dieu utilisait pour prêcher le premier message, sermon évangélique dans le livre des Actes. Souvenez-vous de Jacob, son nom signifie celui qui attrape le talon, l'escroc, l'arnaqueur. Cependant, lui, il rencontra Dieu alors qu'il traversait à gué de Yabok. Et cette nuit-là, le Seigneur fit fondre Jacob. Dieu lui donna un nouveau nom, Israël, ce qui signifie il sera un prince avec Dieu. Après avoir affronté ce feu, il fut un instrument utile entre les mains de Dieu. Souvenez-vous de Joseph. Même si cet homme à qui on n'avait rien à reprocher, fut fondu dans le feu, il a été fondu dans le feu avant d'être promu pour glorifier Dieu. En gardant cela en tête, réjouissez-vous lorsque le feu brûle dans votre vie. Cela peut être difficile pour un certain temps, mais rappelez-vous que le Seigneur est sur le point de vous utiliser pour faire de grandes choses pour sa gloire. Voici comment Paul l'a exprimé en son temps, et pourtant que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations. Et Dieu pourtant lui a donné une écharpe dans sa chair. Pourquoi? Pour l'empêcher de s'énorgueillir. Et frères et sœurs, souvent, il nous arrive des écharpes dans notre chair, de passer à travers des incendies pour nous empêcher de nous énorgueillir de ce que Dieu fait à travers nous. Souvent, quand on connaît beaucoup de succès, de réussite dans la vie chrétienne, c'est plus Dieu qui nous a aidés, mais c'est Jean Cudon avec ses grosses... Anciennement, ses grosses biceps, mais là, il n'y en a plus. Mais vous savez, quand vous êtes jeune, c'est là, puis quand vous êtes vieux, ça tombe par ici. Hein? Fait qu'heureusement que j'ai un costard serré, il reste pris dans mes bras, mais on est souvent porté à oublier ce que c'est Dieu qui a réalisé toutes choses dans nos vies. En terminant, s'arrêter, se jeter au sol et rouler demeure un bon conseil si jamais vous vous retrouvez plongé dans un feu, au sens littéral du terme. C'est un conseil qui pourrait vous sauver la vie. S'arrêter, se jeter au sol et rouler, c'est également un bon conseil lorsque vous traversez les saisons de feu de la vie. Apprendre à gérer les feux de la vie à la manière du Seigneur peut faire toute la différence entre traverser le feu en vainqueur ou en vaincu. Si les choses vont bien pour vous aujourd'hui, louez le Seigneur parce que vous allez finir par sentir la fumée dans peu de temps. Ce sera à votre tour de faire face au feu. Et quand ce jour viendra, et il viendra, gérer la situation à la manière de Dieu, car notre Dieu est un Dieu qui est encore capable de vous faire sortir de toutes les situations difficiles que vous êtes appelés à vivre dans ce monde. Voici 2 bons conseils en terminant. Remettez votre sort à l'Éternel, il vous soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Et deuxièmement, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen.